quand il a entendu le mortier qui est tombé à côté, il a très vite fait demi-tour. Porte étant ouverte, j'ai sauté dans la voiture. On a accéléré et c'est là où on a vu le obus tomber 100 mètres derrière nous, probablement à l'endroit où on était posé avant en fait.
Bonjour, je m'appelle Yves Pulici et le journaliste que vous venez d'entendre, c'est Juan Palencia. Sur le front, sous les bombes et avec les Ukrainiens qui tentent de fuir leur pays, il filme la guerre avec Benoît Sarad. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Juan.
Salut Yves.
Où es-tu en ce moment ?
Alors en ce moment, nous sommes en train de rouler sur les routes de la Pologne. On rentre de Kiev, ça fait 3 jours qu'on est sur la route.
Parce que là, tu es avec Benoît Sarad, qui t'a accompagné pendant plus de 2 semaines, pendant 17 jours, du Donbass à Kharkiv, puis à Kiev. Et là, vous êtes en Pologne, vous rentrez en France, c'est la fin de votre mission, c'est ça ?
C'est ça, mais non, et RNT, il dort à côté, donc je ne vais pas trop le déranger parce qu'on a quand même 2 semaines très très longues. On a atterri à Kiev. Ensuite, on est parti à Stuvotych, qui est à côté de Tchernihiv, une des premières routes par lesquelles sont rentrés les Russes. Ensuite, on est parti à Kharkiv. Tout ça, je te parle avant la guerre.
Et Kharkiv, vous êtes vraiment quasiment à la frontière russe.
D'ailleurs, pour l'anecdote, Benoît, la veille de l'invasion, j'étais allé faire des plans des chars ukrainiens qui se tenaient prêts à accueillir, on va dire, les chars russes. 7 heures avant l'invasion russe, Benoît Sarad était devant les chars russes qui s'apprêtaient à franchir la frontière. C'est un fou.
Et donc toi, t'es JRI, c'est ça ?
Justement, Benoît, lui, il est JRI rédacteur, on va dire, pour le service de l'Union Rouge, qui est donc le service documentaire, reportage long de BFM TV. Et moi, je suis JRI au service news. Donc, je couvre toute l'actualité, parfois internationale, donc là, en l'occurrence. Et dans mon rôle, en général, ça consiste à couvrir un peu l'actualité au sens large, à la caméra, évidemment. Ça peut être la politique, ça peut être certains sujets internationaux.
Au début de ta mission, là, en Ukraine, donc vous êtes à Kharkiv avec Benoît. La guerre n'a pas encore commencé. Vous passez une nuit là-bas. Vous deviez aller à la frontière russe dans le Donbass, aller sur la ligne de front le lendemain. Et dans la nuit, la guerre est déclarée.
C'est assez surréaliste, en fait. À partir de ce jour-là, les journées comptaient triple. En fait, on faisait tellement des choses partout en même temps. Il y avait la peur, il y avait l'incertitude, on ne savait pas trop comment s'y prendre parce que on ne savait pas s'il y aurait des bombardements tout de suite sur Kharkiv ou si le lendemain on entendait les canons des chars en fait qui semblaient se rapprocher de la ville. Mais tout ça est évidemment relatif parce qu'à ce moment-là, on ignore un peu ce qui se passe et on n'arrive pas à estimer à quelle distance ça se passe. C'était l'incertitude en fait de savoir si on allait pouvoir en sortir, si on allait pouvoir travailler. C'est ça qui nous a un peu encouragé à partir de Kharkiv, c'est que quand on essayait d'aller dans la rue, les civils en armes nous ont un peu mis en joue. Donc c'était compliqué de travailler. Les gens ne nous parlaient pas dans la rue. Soit ils fuyaient, soit ils faisaient comme si rien ne s'était passé. C'était très surréaliste. Et les bombes se rapprochaient. Et surtout, notre hôtel était sur la route qui devait emprunter les chars russes pour arriver à Kharkiv. En gros, on était sur la même route, quoi. On était à environ 40 minutes des chars dans l'hôtel où on était. Donc comment on travaillait avant la guerre, en fait, c'était très simple. Tu trouvais un hôtel, tu y allais. C'était très simple, il y avait de la disponibilité partout, c'était une vie normale. Et à partir de ce jour-là, il s'agissait de trouver des hôtels qui ouvraient, qui n'étaient pas pleins des réfugiés, parce que nous, on s'est retrouvés un peu malgré nous dans la situation des réfugiés ukrainiens, en fait. C'est-à-dire qu'on a fui Kharkiv comme les réfugiés, avec toutes les contraintes que ça implique, c'est-à-dire il fallait trouver de l'essence, faire la queue pour en trouver, il fallait trouver des hôtels disponibles. Et il fallait trouver des hôtels aussi avec des abris parce que la peur à ce moment-là, c'était les bombardements.
Donc là, vous quittez Kharkiv le premier jour de la guerre et vous allez où à Kiev ?
Pas tout de suite, on quitte Kharkiv déjà parce qu'il faut le quitter avant que les choses se corsent. Et à ce moment-là, il y a une sorte de scission qui s'est opérée un peu entre les personnes du groupe. Il y avait des personnes qui ne sentaient pas d'aller à Kiev et d'autres qui voulaient y aller à tout prix.
Tu voulais absolument aller à Kiev, à tout prix aller à Kiev, pourquoi ?
Parce que c'est très important, enfin, je ne pouvais pas partir de là sans y aller, c'est un peu pour ça que je fais ce métier. Par contre, si quelqu'un ne veut pas le faire et que je suis avec la personne, évidemment par sécurité, parce que c'est comme ça, on ne le fait pas. En l'occurrence, Benoît, lui, voulait y aller, et moi aussi. Donc on a fait la route jusqu'à la ville d'Ouman, qui est au sud de Kiev. Un vol d'oiseau, c'est une centaine de kilomètres. Et nous, on a pris la route vers Kiev 2 jours, 3 jours plus tard, parce que à ce moment-là, il y avait beaucoup de bombardements sur place, enfin, sur la route qui nous conduisait à Kiev. Donc il y avait beaucoup de bombardements. On était en permanence branchés sur nos téléphones pour regarder s'il y avait des potentielles cibles.
Comment ça, sur ton téléphone, t'avais des cibles sur ton téléphone ?
On est quand même sur un journalisme de guerre 2.0 un peu. On a une application qui s'appelle Live UA Map, qui répertorie en gros tous les témoignages des Twitter. C'est évidemment à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, ça compile un peu toutes ces vidéos. Et sur la route qu'on allait emprunter, il y avait deux cibles militaires, donc deux aérodromes, qui d'ailleurs ont été bombardés la veille de notre départ. Et on est parti, on est passé à côté, il y avait encore de la fumée. On attendait ça en fait. On a pris la route, c'était un peu chaotique parce qu'on est parti sous les sirènes. Il fallait qu'on parte à une heure et on se dit on part. Pile à ce moment-là, les sirènes se mettent à sonner. À ce moment-là, on avait peur des sirènes encore. Et on sort de la ville, on quitte la ville et on part vers Kiev.
Comment ça se passe quand vous traversez Douman jusqu'à Kiev?
C'était très surréaliste, on a envie d'y aller, ça c'est sûr. Après, on a peur. Et anecdote, c'est la première fois que Benoît Sarad roule à sens interdit sur l'autoroute parce qu'on a dû faire demi-tour à un moment donné et nous a encouragé à faire demi-tour sur une autoroute. Pour l'anecdote, il était très content. Mais oui, il y a de l'adrénaline, c'est sûr, il y a de la peur. On ne voit pas les avions qui bombardent, si tu veux. On voit vraiment des colonnes de fumée qui s'élèvent à droite et à gauche de la route. À un moment donné, on voulait mettre de l'essence. On regarde à droite, il y a de l'essence, mais on regarde à gauche, il y a un aérodrome. Donc on se dit, on va peut-être pas mettre de l'essence ici, par exemple. Il y a plein de détails comme ça, et puis on arrive à Kiev, et là, c'était surréaliste.
Ça ressemble à quoi, Kiev, ce jour-là?
C'est une très belle capitale, Kiev. C'est massif, quoi. C'est des immeubles soviétiques, à la fois, on dirait un peu Vienne. Et là, il n'y a personne. Les seules personnes qui sont, ont soit des sacs de courses et courent un peu pour rentrer chez eux, soit des bagages et partent dans l'autre sens, en fait. C'est vraiment vide, quoi.
Les sujets que vous tournez au début, c'est vous allez à la gare?
C'est ça, on va à Kiev parler aux gens, en fait. C'est notre métier, en fait. Avant d'aller expliquer la situation géopolitique, on va raconter les départs des gens. Tous les confrères, en fait, qui étaient dans l'hôtel où on logeait, nous ont dit, vous allez voir, la gare, c'est horrible. Et on disait, mais quoi, comment ça, horrible? Vous allez voir. On arrive à la gare, c'est une gare comme une autre, pleine de gens. C'est un flux ininterrompu de personnes qui partent, qui arrivent, qui se prennent la tête dans les mains, qui pleurent, qui ont énormément de bagages, des enfants partout, des vieilles personnes, tout. Quand on arrive sur les quais, là, on commence à voir vraiment la particularité de cette gare, qui est la gare d'une capitale qui est en guerre. Sur les quais, des familles entières avec des bébés, avec le père et la mère qui étaient encore sur les quais. Mais au moment des montées dans le wagon, là, les pères, eux, restaient à quai. Et les mères avec des enfants partaient. Je n'avais jamais été ému à ce point-là pour un tournage, personnellement. On a rencontré Andrei, une garagiste en fait à Kiev, qui était là avec sa femme et son enfant. Sa femme allait partir, elle vive dans les minutes, dans les heures qui venaient. Et lui était là à côté, comme un roc, quoi. Les gars, ils bougeaient pas, ils leur faisaient des bisous. Et donc il était là et on lui pose des questions. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez vous battre? Vous avez manié les armes.
Il sait se battre.
Mais vous m'êtes ou j'ai surgi?
Malheureusement, non.
Un déchirement pour cette famille, obligée de se séparer.
J'espère que je les reverrai.
Andrei ne laisse rien paraître. Pas question de s'effondrer maintenant. Le train arrive. Sur le quai, dans une cohue indescriptible, au milieu des pleurs des enfants, des cris des parents, Andrei, lui, a réussi à se faufiler pour faire monter sa femme et son fils.
Et là, je fais un plan de ce père des familles et son enfant. Je ne comprends pas l'ukrainien, mais il lui dit quelque chose à l'oreille. Et en faisant ce plan, je me suis mis à pleurer, mais de manière quasiment automatique, quoi. Je me suis mis à pleurer et je n'arrivais plus à tourner, je n'arrivais pas à faire les points. C'est des choses qui m'était jamais arrivé avant. Qu'on entend la détresse des gens. Des gens qui disent on va tomber dans les rails, il y a des enfants qui pleurent, c'est complètement chaotique, quoi, c'est horrible. Et il y a des hommes qui poussent leurs femmes dans le wagon et qui n'ont même pas le temps d'y revoir à leurs enfants au final, c'est terrible, quoi. Donc c'était un tournage très éprouvant et plein d'émotions, quoi.
Ça fait donc 10 jours que vous y étiez. Qu'est-ce que vous avez fait à Kiev comme votre reportage?
On a fait un peu la vie quotidienne de Kiev, les gens qui sont dans le métro, qui vivent dans le métro. On a fait les habitants qui résistent. On a aussi fait, on a essayé d'aller du côté d'Irpin.
Ça, c'était ce week-end?
Dimanche dernier, ouais, tout à fait. On a failli mourir.
Ouais, c'est ça. Irpin est complètement bombardé et vous dites, on va aller là-bas?
C'est pire que ça. C'est des lignes mouvantes où il y a des bombardements dans tous les sens et on ne sait pas où ça tombe, en fait. Ça peut être un avion, ça peut être un mortier, ça peut être un char, ça peut être...
Pourquoi vous voulez aller à Irpin?
En gros, les troupes russes allaient rentrer par Irpin pour essayer de gagner Kiev. Et éventuellement l'entourer. C'est les scénarios auxquels tout le monde s'attend encore aujourd'hui. Il se trouve que nous, on voulait aller jusqu'à la zone où les réfugiés étaient évacués. Et donc on a essayé de prendre cette route, nous, pour rendre compte un petit peu de ce qui se passe, et c'est normal. Et les soldats russes avaient avancé de quelques kilomètres. Donc là où la veille c'était safe d'y aller, les jours où on a été, ça n'a été plus, mais on ne le savait pas. Et personne ne pouvait le dire, parce que personne ne donnait d'informations, évidemment.
Ça veut dire quoi quand c'est pas safe?
Ça veut dire balles perdues, ça veut dire des tirs des mortiers, ça veut dire des bombardements sur la tête. C'est vraiment des choses qui sont imprévisibles, en fait. De toute façon, même si tu te rapproches, ça peut t'arriver. On prend la route et tout va bien jusqu'à un certain point. Il y a des choses à faire. Il faut notamment rouler les vitres ouvertes et garder l'oreille bien attentive pour entendre bien les explosions, etc. On roule les vitres ouvertes et on entend que les explosions s'intensifiaient autour. Je disais, mais c'est quand même censé être beaucoup plus loin quand même, cette histoire. Donc on avance, on voit les sapins qui défilent des deux côtés de la route et on entend que ça s'intensifie. Donc je dis à Benoît, arrête-toi, il y a des confrères, il faut qu'on te demande parce que je trouve que ça, c'est un peu proche quand même. On s'arrête et là, quand je descends de la voiture...
It's okay there?
Watch your door.
Attention!
C'est derrière que ça fait. C'est derrière et là, vers la, à ta gauche.
Qu'est-ce qu'ils font, eux?
Hein? Faut partir.
Faut faire demi-tour?
Ouais. Putain, mais chier.
Sûr qu'on puisse y aller, ça pète violent autour de nous. Il y a quelques explosions qu'on n'a pas pu enregistrer, mais là on était.
Faut aller plus vite, ils vont péter sur la route là derrière. Allez, on vient de voir, ça a pété derrière.
Ah ouais, ça a pété derrière. Tu peux regarder, Juan, ça a pété derrière.
Allez, trace.
Enfin, on voit à quelques dizaines de mètres de nous des mortiers explosés et on en voit un qui tombe derrière la voiture à une centaine de mètres sur la route qu'on allait emprunter et ça aurait pu nous tomber sur la tête. C'est des choses qui arrivent.
Comment vous vous sentez quand vous allez sur cette route-là, justement?
On n'est pas prêt à ça, on s'habitue un petit peu, mais on ne sait pas vraiment comment on peut réagir en ce cas-là, quoi. Quand je sors de la voiture, j'ai laissé la porte ouverte. Benoît était au volant de la voiture allumée. Dès qu'il a vu que les choses s'intensifiaient et quand il a entendu le mortier qui est tombé à côté, il a très vite fait demi-tour. J'ai couru, on a fait le choix de partir, il y en a qui font le choix de se taire. On a fait le choix de partir et la porte étant ouverte, j'ai sauté dans la voiture. Évidemment, avec les gilets pare-balles qui est très lourd, et on est moins rapide, mais on est un peu mieux protégé. Et donc, je saute dans la voiture et lui, il était prêt, évidemment, on a accéléré et c'est là où on a vu l'obus tomber 100 mètres derrière nous, probablement à l'endroit où on était posé avant, en fait, c'est sûr.
Justement, dans cet enregistrement, on entend Benoît qui te dit de filmer derrière toi.
Oui. Alors, là, pour l'anecdote, en fait, il y avait la valise rose énorme de la fixeuse. Donc, quand je me suis retourné pour filmer, on voyait que ça. On voyait rien, ça bloquait la vue, en fait. Donc, j'ai pas pu voir les... De toute façon, c'était trop tard. Ça ne fait pas une flamme, quoi. C'est pas un bombardement, mais on était mal placé pour la voir. Disons que la caméra ne pouvait pas réussir à la voir, cette explosion. Mais on entendait bien. Ça, c'est sûr.
Donc là, vous faites demi-tour. Finalement, vous ne pouvez pas aller à Irpine.
On ne peut pas aller à Irpine, mais on peut quand même raconter ce qui s'est passé. Il faut savoir que ces jours-là, il y a eu 8 personnes qui sont mortes sur cette route pour la même raison, en fait, que nous, on est partis. C'est-à-dire qu'il y avait des bombes sur la route. Alors nous, on se la joue un peu courageux, tout ça. C'est pas du tout pour ça qu'on y était. Il y a des gens qui fuyaient à vélo et à pied. Donc là où nous, on avait une voiture, des protections, etc., il y avait des gens qui faisaient la même chose avec des enfants, à pied, à vélo. Et donc l'intérêt de cette séquence, on cherche pas à se mettre en danger, ce serait bête de faire ça. On cherchait à raconter les évacuations. Et en l'occurrence, ce jour-là, c'était la démonstration que les bombes des Russes tombaient directement sur les bus des gens qui partaient.
Comment tu te sens aujourd'hui? Parce que, enfin, t'en rigoles presque.
Bah, on a cherché déjà. On a voulu venir là. On sait que ça comporte des risques. Chacun a ses mécanismes un peu de pour se détendre, pour relativiser un peu. Sachant que je viens d'un pays un peu compliqué aussi, qui est la Colombie. Disons que j'étais en quelque sorte habitué à ce genre de stress. Je vais dire plutôt bien, mais non, ça va bien en fait. Évidemment, c'est notre métier qu'on fait. On cherche juste à faire ça. On cherche à raconter la vie des gens. Et je me sens limite frustré de partir en fait. parce que là ça fait très longtemps et qu'on était là, et en fait les problèmes ce n'est pas la fatigue physique, c'est la fatigue psychologique. Quand on en fait trop, on a beaucoup plus de chances de mal estimer les dangers. Donc ce n'est pas pour ça qu'on est rentré, encore une fois, c'est parce qu'on était un peu fatigué, ça c'est sûr. Et quand on est fatigué, on voit les choses moins clairement. Dans ce contexte, ça veut dire qu'on peut mourir, quoi.
Là, t'aurais voulu rester ?
Complètement, ouais. Je vais même y retourner, si on me le permet, évidemment. Avec tous nos collègues, Jérémy Père, Jean Alencar, Benoît Sarad, évidemment. On veut tous retourner parce que c'est un peu l'essence de l'histoire. Donc on aura l'occasion de revenir, même très vite. Dans 10 jours, selon Benoît Sarad, qui regrette d'être parti aussi et qui est déjà en train de caler son retour.
T'es en voiture, tu conduis pour prendre l'avion à Varsovie. Donc t'es un peu dans ce sas de décompression entre l'Ukraine, un pays en guerre, et ton retour à la maison. Comment tu te sens ?
C'est surtout la sensation de ne pas stresser à chaque déplacement, en fait. Parce que, et là, retourner un peu aux choses simples, rouler juste les fenêtres fermées, s'arrêter manger quelque chose quand on veut... Aller acheter des choses dans un supermarché, ça paraît bizarre, mais ça fait plaisir quand même de retrouver un peu une vie normale. Par exemple, hier, on était dans une maison à Lviv, où il se passe pas grand-chose, et on entendait des pas de l'appartement du haut, et t'es obligé de penser que c'est les bombardements qu'il y avait de temps en temps à Kiev. Ça fait penser à ça, quoi. Effectivement, ça fait ça. Mais on a vécu 5% de ce que vivent vraiment les gens qui sont sous les bombes, hein. Vraiment rien à voir. Après, oui, c'est, effectivement, c'est les habitudes, c'est, en fait c'est la simplicité de vivre, quoi. Tout ça c'est fini, hein, Kiev. C'est juste aller acheter du pain, c'est une aventure, quoi.
T'as ton avion ce soir ? Vous dormez en France ce soir, chez vous ? T'es impatient ?
Quelqu'un qui est très content que j'ai rost. Nous on fait ça et on aime ce qu'on fait, effectivement. Mais il faut penser aux gens qu'on laisse derrière. Jérémy a un enfant, une fille, Joao sa copine, Benoît a deux filles aussi. Donc il faut penser aux gens qui restent derrière, qui sont très 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 inquiets, inquiètes pour nous, quoi. Ma copine m'attend, elle a passé 15 jours en PLS, elle me soutient, hein, mais quand même ça n'empêche pas d'être en PLS. Ma mère a très mal dormi depuis 2 semaines, donc ouais, il est temps qu'ils se reposent eux aussi, quoi.
Tu vas réussir à leur raconter tout ce que t'as vu, tout ce que t'as vécu quand tu vas rentrer à la maison ?
Je vais éviter, hein. Alors j'ai la chance... que ma copine est journaliste aussi, elle comprend, mais elle ne regarde pas. Donc ça pour elle c'est le soulage. Et ma mère est colombienne, donc elle est en Colombie, elle ne parle pas un mot de français, donc elle ne comprend rien de ce qu'elle voit. Donc c'est parfait, parce que comme ça déjà de savoir qu'on est à Kiev, tout va bien. C'est très, déjà très compliqué comme ça. Alors si en plus elle comprenait ce qu'on dit, ça serait la fin, quoi, la peau.
Tu sais un peu quel est ton programme là pour les, bah, du coup, les 10 prochains jours avant de repartir, si tu dois repartir ?
Je donne des cours à l'école de journalisme de Lille de lundi à jeudi. Et je tiens à le faire parce que c'est intéressant de donner des cours, enfin de transmettre un petit peu ce qu'on a appris aux autres.
Donc là, lundi matin, il y a des étudiants de journalisme qui vont pouvoir te poser des questions sur ce que tu as vécu.
C'est ça. Ça va être intéressant, les étudiants. Enfin, je pense que pour eux, ça va être enrichissant, parce que même moi, j'ai pas non plus énormément d'expérience, même si j'ai fait 2 ou 3 choses comme ça. Mais ça, c'est tout frais, quoi, on va dire. Donc c'est intéressant de transmettre ça, et plutôt opportun, on va dire, en ce contexte, en ce moment, quoi.
Bon bah repose-toi bien, bon courage pour ta semaine de cours.
Merci, Yves. Ciao mec, ciao.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.